en même temps, on le voit ici comme homme, Jésus. Il a été fait un peu moindre que les anges. Pourquoi? Nous avons vu déjà dans le passé que le Seigneur Jésus est le Créateur, donc comme Créateur, il est au-dessus des anges. Même lorsqu'il est venu comme homme dans ce monde, le bébé dans la crèche, là à Bethléem, les anges étaient soumis à lui. Il était plus grand que les anges. Et nous voyons que les anges l'ont servi pendant son ministère sur la terre. Pourquoi est-ce qu'il a été fait un peu moins que les anges? C'est dit ici, à cause de la façon de la mort. Les anges ne peuvent pas mourir. Les anges ne peuvent pas se donner en sacrifice pour nous. Aucun homme ne pouvait satisfaire non plus parce que la race humaine est déchue. Et ainsi nous voyons que le Seigneur Jésus, Dieu ne peut pas nous mourir non plus, mais comme homme, il a pris cette place encore un peu moins que les anges. Mais c'est donc par rapport à la mort. Ensuite, nous voyons, après les souffrances, c'est les gloires. C'est un thème général dans la Bible. Les souffrances du Seigneur d'abord, ensuite les gloires qui suivaient. Et on voit ça aussi tout de suite. Couronné de gloire et d'honneur. Et là, il est encore plus élevé que les anges. Il est toujours plus élevé que les anges. Sauf, par rapport à sa mort, il était un peu moindre. La deuxième chose qu'on voit ici, c'est le résultat, à la fin du verset 9, en sorte que par la grâce de Dieu, il goûta la mort pour tous. C'est juste pour indiquer, parce que ce verset est tellement riche, mais juste pour souligner, la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui l'a envoyé, c'est la grâce de Dieu par laquelle il s'est donné comme sacrifice. On verra plus tard plus de détails concernant le sacrifice. Nous le voyons ici comme rédempteur. Il est le grand créateur du premier chapitre. Ici, nous le voyons comme rédempteur et par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tout. Et là, il y a donc deux aspects. Colossiens 1 explique cela aussi. Pour réconcilier tout, on n'est pas des universalistes, mais tout l'univers sera purifié du péché. Jean 1, verset 29, Jean le baptiseur l'avait dit. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, de l'univers, du cosmos. Il goûta la mort pour tous. Mais on peut lire aussi pour tous. L'œuvre est suffisante pour que tous puissent venir avec repentance. Mais il faut venir avec repentance. Et je le répète souvent, sans la repentance, on ne peut pas avoir de communion avec Dieu. Ça prend la repentance, ça prend la confession de nos péchés. Mais ici, nous voyons donc l'œuvre de Dieu, la grâce de Dieu, il a envoyé son Fils, et le Seigneur Jésus a goûté la mort pour tous. Il est mort pour tous, 2 Corinthiens 5. Romains 3 nous montre cela aussi. Mais ça demande une réponse de notre part. Dieu ne nous a pas créés comme des robots. C'est à nous. Dieu veut que tous soient sauvés. 1 Timothée 2. 2 Pierre 3 montre que comment Dieu est patient. Une grande patience. Dieu attend pour que tous puissent être sauvés. C'est la grâce de Dieu. Donc on aura plus de détails sur l'œuvre du Seigneur Jésus plus tard dans l'Épître. Son sacrifice, l'Holocauste, le sacrifice pour le péché. Mais ici on a déjà le noyau. C'était pour tout l'univers, c'était pour tous. Maintenant, j'aimerais d'abord donner un petit résumé, ensuite on verra quelques détails. J'ai déjà dit, cet épître nous parle d'une façon particulière de la grandeur du Seigneur Jésus. Et j'aimerais juste mentionner quelques points, un aperçu historique. C'est beau de voir en 7 points comment ces versets que nous avons lus nous parlent d'abord de l'incarnation au verset où nous avons vu qu'il a participé au verset 14, puis donc les enfants ont eu part au sein et à la chair, lui aussi, semblablement, il a participé. Le secret est donné en détail dans Luc 1. Dans Luc 1, nous voyons comment la Vierge serait sous l'ombre du Saint-Esprit, et puis ainsi elle concevrait cette semence sainte. Donc dans Luc 1, nous avons déjà un peu un détail là-dessus. Le Seigneur Jésus n'a pas pris part à notre condition comme pécheur, loin de cela, mais il a pris une position comme homme sur la terre. Il n'était pas Dieu, et puis enveloppé dans une forme humaine. Donc il est Dieu, et en même temps il est devenu homme, sans participer à la nature pécheresse. Il a participé à la nature humaine, mais sans participer à la nature pécheresse. C'est pour ça que ce verset dit, semblablement il a participé. Vous voyez, la Bible est très exacte. Donc ça c'est le premier point. La venue du Seigneur Jésus dans le monde, il a participé au sang et à la chair pour pouvoir mourir pour nous. Il fallait qu'il vive comme un homme pur et juste devant Dieu, ensuite qu'il puisse mourir. Le deuxième point, nous voyons sa vie sur la terre. Verset 18, il a souffert étant tenté. Verset 18, car en ce qu'il a souffert lui-même étant tenté. Au début de son ministère, ou juste avant son ministère public, dans Luc 4, dans Matthieu 4, Marc 1, nous voyons ses tentations dans le désert. Ça souligne qu'il était un homme comme vous et moi. Mais, à part le péché. Donc, sa venue dans le monde, sa vie comme un homme sur la terre, et maintenant, encore un détail, c'est le troisième point, sa confiance en Dieu, verset 13. Moi, je me confierai en lui. Ce verset exprime l'attitude du Seigneur Jésus, d'une entière dépendance envers Dieu. Ce verset montre l'humanité parfaite du Seigneur Jésus. S'il était juste Dieu enveloppé dans une forme humaine, il n'aura pas besoin d'être dépendant de Dieu. Mais comme un homme parfait, il a exprimé pendant toute sa vie une dépendance. Psaume 22, lorsqu'il était sur les seins de sa mère, il a mis sa confiance en Dieu. Lorsqu'il était là, au début de son ministère, il était dépendant de Dieu et toujours dépendant de Dieu jusqu'à la fin. Donc cette confiance en Dieu, c'est le troisième point. Le quatrième point, le Seigneur Jésus est mort. Et je l'ai mentionné déjà, pour tout et pour tous. Donc sa mort, c'est le quatrième point. Quelle pensée que le Fils de Dieu est mort pour nous. Quel amour que nous avons exprimé dans le cantique. Et sa mort, on a vu au verset 9, on va revenir à ça au verset 10, verset 14, pourquoi est-ce qu'il a participé au sang et à la chair? Afin que par la mort, il rendit impuissant. Donc un homme parfait pour pouvoir mourir. Et par cette mort, il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort. Verset 17, sa mort par rapport au sacrifice qui était nécessaire. L'œuvre expiatoire, verset 17, pour faire propitiation pour les péchés du peuple. Vous voyez sa mort et les effets de sa mort. Maintenant, le cinquième point. C'est quoi le cinquième point? Donc, on parle de l'ordre historique. Il est venu dans ce monde, il a vécu dans ce monde, il a mis sa confiance en Dieu, il est mort. Ensuite, au verset 9, on a vu couronné de gloire et d'honneur. Il a goûté la mort pour tous. À cause de la passion de la mort, il était un peu moins que les anges, mais maintenant, couronné de gloire et d'honneur. C'est le cinquième point. Et ça implique donc sa résurrection, ça implique son exaltation, comment Dieu l'a couronné. Maintenant, le Seigneur Jésus, et ça c'est mon sixième point, sa position actuelle, il est chef. On va revenir à ça parce que tantôt j'aimerais parler un peu du lien entre lui et nous. Il est notre chef au verset 10, le chef de notre salut. Il est celui qui sanctifie, au verset 11. Il est celui qui révèle le nom de Dieu, verset 12. Il est notre rédempteur, on en a parlé déjà, mais verset 14-15 nous parle de cela. Il est celui qui nous soutient. Donc maintenant, dans la gloire, le Seigneur Jésus, il a beaucoup de rôles, si je peux utiliser ce mot-là, par rapport à lui, pour nous. Et on va revenir à ces rôles au cours de cette épître. Maintenant, au septième point, sa grandeur par rapport au monde à venir. Il est le Fils de l'homme qui va régner sur le monde habité à venir. Verset 5 et les autres versets qu'on a vus la dernière fois. Dans le monde à venir, il aura la place de roi qui va régner sur tout l'univers. Maintenant, j'aimerais encore souligner quelques points de sa grandeur qui sont mentionnés dans ce chapitre. Il est appelé Christ, ça veut dire loin, et puis on va revenir à ça une autre fois. Dieu l'a loin. Il est le Christ. On a vu comme Fils de l'homme la dernière fois. On a vu ce soir, il est Jésus. L'humble Jésus de Nazareth, couronné de gloire et d'honneur. Il est notre chef, verset 10. Chef de leur salut. Il est, verset 11, celui qui sanctifie. Il est, verset 17, un miséricordieux et fidèle, souverain sacrificateur. Et puis, on va revenir, au cours de ces chapitres dans l'Hébreu, on va revenir surtout au fait qu'il est notre chef. Il nous dirige à travers le désert. Il nous dirige dans le sanctuaire, on verra ça aussi. Il nous dirige pour sortir du camp, Hébreu 13. Il est notre chef. Ici, il est le chef de notre salut. Le mot salut revient 7 fois dans cette épître. C'est très beau de voir ça. Mais il est notre chef. Il est notre conducteur. Mais il est aussi notre souverain sacrificateur. On verra plus tard, à Hébreu 8 par exemple, il est le ministre du sanctuaire. Il prend soin des intérêts de Dieu, mais il est aussi notre grand souverain sacrificateur. Et on verra cela à deux égards. Pour nous aider dans le désert, qu'est-ce qu'on a vu ce soir au verset 17, dans les choses qui concernent Dieu pour faire propitiation pour les péchés du peuple, ça c'est par rapport à sa mort. Donc ici nous le voyons comme souverain sacrificateur par rapport à sa mort. Mais au verset 18, nous voyons le Seigneur Jésus comme souverain sacrificateur par rapport à notre marche à travers le désert pour nous secourir, pour secourir ceux qui sont tentés. Vous voyez la grandeur du Seigneur Jésus, Christ, Dieu à loin, il est le Fils de l'homme et on a vu qu'il va être glorifié dans le monde à venir, et Dieu l'a déjà couronné de gloire et d'honneur. Le simple nom Jésus nous parle de cette immense grandeur de cette personne. le chef de notre salut, il est celui qui sanctifie, il est notre grand souverain sacrificateur. Et Dieu voulant, la prochaine fois, on va parler un peu plus en détail du sacrificateur. Et on verra aussi plus tard, jusqu'au chapitre 7 et 8 même, beaucoup de détails sur le Seigneur comme sacrificateur. Ce qui rend ce verset un peu difficile, ce qu'on a vu ce soir, ici, l'auteur donne comme un résumé de beaucoup de sujets qui sont développés en détail un peu plus loin. Maintenant, j'aimerais souligner le lien entre le Seigneur Jésus et nous. Ici, dans l'hébreu, ce n'est pas le mystère de l'Église, comme dans Éphésiens ou dans Colossiens. Le lien entre Christ dans la gloire et nous, les membres de son corps. Le lien qu'on trouve, ou les liens qu'on trouve dans l'hébreu, sont d'un caractère différent, mais quand même très réel. Je voulais mentionner sept liens entre le Seigneur Jésus et nous. Sept liens entre le Seigneur Jésus et nous. Au verset 12. Excusez-moi, non? On va revenir encore au verset 10. Mais verset 12 nous parle du fait qu'il nous appelle frères. Et j'ai pensé à ça en premier parce qu'il est le premier-né d'entre beaucoup de frères. Vous connaissez cette expression? Et on l'a mentionné déjà une fois. Cinq fois dans le Nouveau Testament, nous voyons le Seigneur Jésus comme le premier-né d'entre beaucoup de frères. Il est le premier-né, c'est une position par rapport à nous. Il est le chef et nous sommes cette génération qui appartient à nous. Il est le premier-né d'entre beaucoup de frères. Romains 8, verset 29, nous parle de cela. Colossiens 1, je répète, par rapport à la création, le Seigneur Jésus est le premier-né, plus grand que les anges. Par rapport à la rédemption, il est le premier-né d'entre les morts, Ça nous montre sa grandeur. Et c'est seulement par rapport à sa mort et à sa résurrection que nous avons un lien avec lui. C'est pour ça que je voulais commencer par cette expression-là, premier-né. Ça veut dire qu'il est premier en rang, en position, mais en même temps, il a un lien avec nous, les rachetés. En contraste avec l'autre nom que le Seigneur Jésus a, l'autre relation, le Fils unique, qui revient aussi cinq fois dans le Nouveau Testament, le Fils unique. Là, il est, comme le mot dit, unique. Il n'y a aucune personne qui lui est semblable, il est le Fils unique dans le sein du Père. Mais on ne parle pas de cette position-là. Cette relation entre le Père et le Fils unique est unique et reste unique. Mais ici, nous parlons de sa relation avec nous. Le premier-né par rapport à la création, nous appartenons à la création, nous sommes des créatures. Nous avons maintenant une relation avec lui par le péché, cette relation a été brisée. Par la rédemption, cette relation a été restaurée. C'est pour cela qu'il est le premier-né d'entre les morts. Et comme rédempteur, nous avons cette relation maintenant aussi avec lui comme rédempteur, créateur et rédempteur. Et ainsi, il est le premier-né d'entre beaucoup de frères. On va revenir à ça au verset 12. Il nous introduit dans les secrets de la maison du Père et les secrets de Dieu. On a vu déjà par rapport au monde à venir, dans Hébreux 1, verset 6, il est appelé aussi le premier-né dans le monde habité. C'est par rapport au monde à venir. Il sera le premier-né. Et il aura aussi un peuple qui lui sera soumis, qui sera lié à lui, le peuple d'Israël. Et ensuite, il est le premier de la mort, ou des morts, dans Apocalypse 1. Ça nous parle de sa grandeur générale. Maintenant, ces sept points. au verset 10. Le chef de leur salut. Et on va lire tout le verset. Il convenait pour lui, à cause de qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, que amenant plusieurs fils à la gloire, il consomma le chef de leur salut par des souffrances. Dans cet épître, nous verrons que les croyants sont des fils sacrificateurs qui appartiennent à Christ. Il est leur chef, il est notre chef. Et il nous amène à la gloire. Vous voyez, verset 10, amenant plusieurs fils à la gloire. Nous verrons dans cet épître que déjà maintenant, le Seigneur Jésus nous introduit dans la gloire. Nous avons un ciel ouvert, un accès immédiat. Donc il nous amène déjà maintenant à la gloire. Mais nous sommes aussi en route pour la gloire, pour traverser le désert. Ce sont deux vérités par rapport à ce verset-là. Et ainsi, il est notre chef qui amène beaucoup de fils à la gloire. Deuxième chose, au verset 11, et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un. C'est un verset difficile, ils ont la même origine. Mais Christ est celui qui sanctifie et nous sommes ceux qui sont sanctifiés. La sanctification joue un rôle important dans cet épître. C'est même un mot-clé, la sanctification. Ça veut dire être mis à part pour Dieu. Comme dans Romains, la justification est centrale. Dieu nous a déclarés justes, nous a rendus justes devant lui. Ainsi, dans Hébreux, la sainteté et la sanctification et sanctifié sont des thèmes importants. Donc nous avons un lien avec lui, il est celui qui sanctifie et nous sommes ceux qui sont sanctifiés. Et ainsi nous avons une place dans le sanctuaire avec lui. Troisième relation, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Dans Jean 20, nous voyons comment le Seigneur Jésus a pu parler de cela à cause de sa résurrection. Sur la base de sa résurrection, il a pu dire à Marie, va et raconte mes frères, je monte envers mon Dieu et votre Dieu, mon Père et votre Père. Et ainsi, il pouvait appeler les disciples mes frères. Donc, mes frères, frères ici, c'est une relation intime entre le Seigneur Jésus et nous, mais c'est seulement possible par la base de sa mort et de sa résurrection. On n'aurait aucun lien avec lui sans sa mort et sa résurrection. Quatrième point, verset 12. J'annoncerai ton nom à mes frères, au milieu de l'assemblée, je chanterai tes louanges. Au milieu de l'assemblée. Il est le centre de l'assemblée. Assemblée veut dire une compagnie de ceux qui ont été appelés. Dieu nous a appelés pour sortir de ce monde. Les chrétiens hébreux étaient appelés pour sortir du judaïsme. Une compagnie de ceux qui ont été appelés. Est-ce que vous réalisez cela, que Dieu nous a appelés? Nous avons été appelés par un saint appel, et la prochaine fois on verra par un appel céleste. Nous appartenons à celui qui nous a appelés. Et il est le centre de l'assemblée, le centre de cette compagnie de ceux qui ont été appelés. Là donc, nous avons aussi ce point-là, que nous sommes identifiés avec Christ dans la gloire. Christ dans la gloire, il est le chef, il est notre chef, il est celui qui sanctifie, il est le premier-né d'entre beaucoup de frères, il est le centre de l'assemblée. mais nous voyons aussi, par la grâce de Dieu, que nous sommes identifiés avec celui qui s'est identifié avec nous ici sur la terre. Et les trois autres points nous parlent de cela. Verset 13, « Me voici, moi et les enfants que moi, que Dieu m'a donné. » Le Seigneur Jésus a pris une place sur la terre. Et ainsi, il est identifié avec nous, il nous présente à son Dieu et Père. Les enfants que Dieu lui a donnés. Ensuite, la sixième expression, verset 17, verset 16, excusez. Tous les croyants, les vrais croyants, sont des enfants d'Abraham, même des fils d'Abraham. Et ainsi, le Seigneur Jésus, il prend la main, il prend avec la main la semence d'Abraham. Le Seigneur Jésus s'est identifié sur la terre avec la semence d'Abraham. Quand il parlait avec les Parisiens, Jean 8, les Parisiens disaient qu'ils étaient des descendants d'Abraham. Mais là, le Seigneur montre clairement qu'il s'identifie seulement avec les vrais fils d'Abraham, les vrais enfants d'Abraham ou la vraie semence d'Abraham. Ça veut dire les croyants. Galates 3 nous montre cela en détail. Romains 4 montre cela, que seulement les vrais croyants d'entre les Juifs, seulement les vrais croyants d'entre les nations appartiennent à cette semence d'Abraham. Et ainsi, ils sont identifiés avec Christ. Le septième point, au verset 17, à la fin du verset 17, « Afin qu'il fût un miséricordieux et fidèle souverain sacrificateur dans les choses qui concernent Dieu, pour faire propitiation pour les péchés du peuple. » Le peuple était ici littéralement Israël, et puis on peut dire seulement ceux qui ont cru. Ainsi, ça nous parle d'abord de ces juifs chrétiens à Jérusalem à ce moment-là. Mais aujourd'hui, on peut dire, ça nous parle de nous, on l'applique à nous. Nous sommes maintenant le peuple de Dieu. Et dans les jours à venir, lorsque nous serons au ciel, sur la terre, il y aura encore un peuple de Dieu. Les juifs qui se repentent, le reste fidèle sera ce peuple. Et nous voyons ici les souffrances du Seigneur Jésus pour ce peuple. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Le Seigneur Jésus s'identifie au peuple de Dieu sur la terre. Donc dans ces sept points, nous avons notre identification avec Christ dans la gloire, mais nous voyons aussi comment il s'est identifié avec nous dans notre misère. Et il fallait que nous soyons de la semence d'Abraham, ça nous parle de la foi. Il fallait aussi qu'il souffre pour les péchés, pour la propitiation pour les péchés du peuple. Maintenant, il y a quatre points qui m'ont frappé dans ce chapitre, dans ces quelques versets qu'on a lus. C'est l'humanité du Seigneur Jésus. On a vu dans le chapitre premier sa grandeur comme le Fils de Dieu. Mais déjà la dernière fois, on a vu que le psaume 8 va un peu plus loin que le psaume 2, qui nous parle du Fils de Dieu, et que le psaume 8 nous parle du Fils de l'homme, et ainsi, Hébreux 2 met beaucoup d'emphase sur le Seigneur Jésus dans son humanité. Dans son humanité, on a vu, c'est ainsi qu'il a pu mourir pour nous. Mais je veux revenir maintenant au verset 10. Il convenait pour lui. C'est Dieu ici. Selon les plans de Dieu, il convenait pour Dieu que Christ prenne une place comme homme sur la terre. Il convenait pour lui à cause de qui sont toutes choses. Dieu est à l'origine de tout. Dieu a fait les plans. Et par qui sont toutes choses? Dieu est le créateur, le grand créateur de cet immense univers. On ne peut pas s'imaginer la grandeur de Dieu. Dieu est Dieu et nous sommes des créatures. On ne peut vraiment pas s'imaginer la grandeur de Dieu. Mais le point est quand même souligné ici. Il convenait pour lui, à cause de qui sont toutes choses. Donc, on peut penser n'importe quelle chose, les planètes, les étoiles, les micro-organismes, tous les êtres humains. On peut penser aux choses dans le passé, aux choses dans le monde à venir. Tout est pour Dieu. À cause de la chute de l'homme, à cause de l'œuvre de Satan, ça n'a pas l'apparence que c'est comme ça. Mais ce verset nous montre vraiment ce principe. Tout est ici à cause de Dieu. Dieu est à l'origine de tout. Et tout sera aussi pour sa gloire. Mais le verset 10 nous dit, par qui sont toutes choses, il est aussi le grand créateur. On a vu le chapitre 1er, il soutient toutes choses par la parole de sa puissance. On a vu là aussi le Saint-Jésus dans sa grandeur comme créateur. Donc, pour ce Dieu-là, ce grand Dieu, il convenait que le Seigneur Jésus devienne homme pour amener plusieurs fils à la gloire. Deuxième raison pour son humanité, verset 14. Il est devenu homme, comme j'ai dit tantôt déjà, pour pouvoir mourir et ainsi pour avoir la victoire sur Satan. Verset 14. Puis donc que les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi, semblablement, y a participé. On a parlé de cela. Afin que, par la mort, il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort. Donc ici, nous voyons l'humanité du Seigneur Jésus pour qu'il puisse avoir la victoire sur Satan. Pour qu'il puisse rendre impuissant. Le Seigneur Jésus est entré dans the lion's den, on dirait.
Dans la fosse
au lion. C'est ça, dans la fosse au lion, où Satan avait toute sa force. La force de Satan se montre par la mort. Par la mort, il avait contrôle sur toute l'humanité. Le Seigneur Jésus est entré dans la fosse où Satan avait toute la puissance. Et c'est là où il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort. Il est sorti victorieux du tombeau. À la fin du psaume 22, nous voyons une description de ses victoires, les résultats que ça affecte la nation juive, ça affecte les nations, ça affecte le monde à venir. Les résultats de ses souffrances sont montrés dans le psaume 22 déjà. Mais au milieu de ce psaume, un peu plus loin que le milieu, nous voyons comment il était abandonné, entouré par tous ses ennemis. Il a crié à Dieu. Et là, Dieu l'a répondu. Mais la réponse de Dieu est vue dans la résurrection. Et dans tout cela, sa mort et sa résurrection, il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort. Nous voyons aussi dans 2 Timothée 1 qu'il a rendu impuissant la mort. Donc il a rendu impuissant l'outil de Satan, la mort, mais ici il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, Satan. Vous voyez, donc l'œuvre est vraiment complète. Il n'a pas seulement annulé l'outil, il n'a pas seulement enlevé l'outil de Satan, la mort, il n'a pas seulement annulé la mort, 2 Timothée 1, verset 10, mais il a annulé ou rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort. Donc le Seigneur a fait un bon travail. Souvent nous faisons un travail juste la moitié et on est déjà satisfait. Le Seigneur Jésus a fait un travail complet. La troisième raison pour laquelle le Seigneur Jésus est devenu homme est mentionnée au verset 17. Dans cette œuvre de la propitiation, j'aime aussi l'œuvre, la terminologie, l'œuvre expiatoire. Cette œuvre est l'œuvre de celui qui est mort. Oui, il est mort pour rendre impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, mais il a fait plus que cela. Dans sa mort, il a honoré Dieu. Dans sa mort, nous avons vraiment cette œuvre expiatoire. Tout était pour la gloire de Dieu. Et on verra beaucoup plus de détails là-dessus dans chapitre 9 et 10. La quatrième raison pour laquelle le Seigneur Jésus est devenu homme, c'est pour qu'il puisse nous secourir maintenant. Verset 18. Car en ce qu'il a souffert lui-même, étant tenté, il est à même de secourir ceux qui sont tentés. Nous sommes maintenant dans le désert. Le Seigneur Jésus était dans le désert. On le voit dans Luc 4, Matthieu 4, les trois tentations. Et ces trois tentations couvrent vraiment tous les aspects de la vie. Les tentations par rapport aux choses de la terre. Avoir faim, c'est un besoin qui appartient à cette terre. Il n'y a rien de mal là-dedans d'avoir faim. Mais on ne peut pas entrer dans ces livres-là, mais ça montre vraiment la victoire que le Seigneur Jésus a eue sur ces tentations. Il a souffert. Il n'a pas subi ces tentations. C'est impossible. Au chapitre 4, nous verrons cela. Il était à part péché. C'était impossible qu'il subissent à cette tentation. Par contre, pour nous, ça peut nous arriver qu'on subisse, tombe dans un piège. Mais ici, nous voyons que le Seigneur est là, justement. Il a souffert dans toutes ces tentations, tenté 40 jours. Satan a utilisé toutes ses ressources, toutes, qui s'est résumé dans ces trois points, les choses terrestres, les choses du monde et les choses religieuses. Et avec 1 Jean 2, on pourrait dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Le Seigneur Jésus a été exposé à tout. Il n'a pas manqué, pas du tout. Il était victorieux. Mais maintenant, il peut nous aider, nous qui sommes dans ce monde, qui sommes exposés à des tentations. Vous voyez, ça c'est la quatrième raison pour que le Seigneur soit parfaitement homme. Un homme parfait, dépendant de Dieu, on l'a souligné déjà. Il est maintenant dans la gloire, mais il peut exactement comprendre ce qui se passe avec Yann, ou avec Valérie, ou avec n'importe qui de nous. Chacun passe à travers des périodes difficiles, des tentations. Et le Seigneur, il peut nous secourir. Il sait exactement nos besoins. Le Seigneur n'est pas venu dans le monde comme un homme de 30 ans. Il a été aussi un jeune garçon. Il connaît les tentations pour un jeune garçon. Il connaît les tentations pour un jeune homme à l'âge de 12 ans. Il n'a pas cherché sa propre gloire. Il a cherché la gloire de son père, dans Luc 2. Et ensuite, comme homme, nous voyons sa perfection. Et ainsi, il peut nous aider dans nos tentations. J'aimerais encore résumer quelques points. On va revenir au verset 10. Le mot chef, le chef de leur salut, c'est le mot qui est très beau, et j'ai dit, on va revenir à ce mot chef. Le Seigneur est le chef pour nous introduire dans la gloire, chapitre 10. Il est le chef pour nous diriger à travers le désert. Il est le chef pour nous faire sortir du camp, Hébreu 13. Et le mot chef est quelquefois traduit par prince, ou on pourrait traduire leader. C'est un mot très fort qui souligne encore davantage la grandeur du Seigneur Jésus. Ce mot est trouvé 2 fois dans Actes 3, verset 15 et 5, verset 31. Mais je veux juste lire
3, verset 15, parce que c'est vraiment une très belle référence. Acte 3, verset 15. Où Pierre parle aux Juifs, et dans ces sept points, là, il y a aussi sept points, mais je ne veux pas les nommer maintenant. Il dit au verset 15, « Et vous avez mis à mort le prince de la vie. » Le prince de la vie. Ici, le mot « prince », c'est le même mot que « chef » dans Hébreu 2. Et nous voyons ici donc la grandeur du Seigneur Jésus, le prince de la vie. Quelle expression merveilleuse. Et il est prince et sauveur. Chapitre 5, verset 31. Donc, encore ce point-là. Ensuite, on a déjà mentionné d'abord les souffrances, ensuite les gloires. C'est un principe qui revient dans la Bible tout le temps. Luc 24, le Seigneur dit aux deux disciples d'Emmaüs, il dit, vous êtes insensés. Ne saviez-vous pas que il fallait que le Fils de l'homme souffre pour entrer dans sa gloire? Et dans 1 Pierre 1, Pierre cite les prophètes de l'Ancien Testament. Il dit qu'ils ont parlé des souffrances. Les souffrances, plusieurs aspects, les souffrances du Seigneur Jésus. Les souffrances dans les mains de l'homme, les souffrances à cause de l'œuvre expiatoire, les souffrances parce qu'il était attaqué par Satan, des souffrances du Seigneur Jésus et des gloires qui allaient suivre. Donc, toujours, d'abord les souffrances, ensuite les gloires. Maintenant, un petit mot pour nous. Est-ce que vous passez à travers des souffrances? C'est pour nous introduire dans la gloire. Dieu veut nous faire passer à travers des souffrances. Ce ne sera pas des souffrances pour l'œuvre de l'appropriation. C'est impossible. C'est seulement Christ qui pouvait faire ça. Mais les souffrances, c'est maintenant pour nous, un peuple sur la terre. Les souffrances maintenant. Romains 8, 28. Toutes choses coopèrent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc Dieu, il sait ce qu'il fait. Il dirige notre chemin à travers les souffrances, mais on a vu, c'est pour la gloire. Pour la gloire. Ça va nous amener à la gloire. L'autre point, c'est au verset 12. On a vu déjà quelques points de ce verset 12, mais j'aimerais maintenant mentionner deux points. Le Seigneur révèle le nom de Dieu. J'annoncerai ton nom à mes frères. Il est l'apôtre qui présente Dieu. On verra dans Hébreu 3, en plus de détails, le Seigneur comme apôtre. Il révèle Dieu. Mais il est aussi le grand sacrificateur. Et comme sacrificateur, il chante les louanges. Vous voyez, il nous aide comme ce grand chanteur, comme celui qui entonne le cantique, il donne la réponse. Et ainsi nous voyons le Seigneur comme apôtre ou prophète qui révèle la pensée de Dieu, mais il donne aussi la réponse. Au milieu de l'assemblée, je chanterai tes louanges. C'est beau de voir ici le Seigneur au centre de l'assemblée, on parlait de cela déjà, et il nous représente auprès de Dieu, et il nous introduit dans la présence de Dieu, et dans Hébreux 10, nous verrons comment il est même le chemin pour entrer dans la gloire, dans la présence de Dieu. Ensuite, on a parler de la dépendance du Seigneur Jésus au verset 13, et j'aimerais maintenant dire aussi comment c'est vraiment important pour nous d'être dépendant de Dieu. On a la tendance naturelle de mettre notre confiance en nous-mêmes. Ça, c'est la tendance naturelle. Dans les proverbes, il a dit confie-toi de tout ton cœur, confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel. Et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, connais-le. Il dirigera tes sentiers. Ça, c'est la dépendance. Donc, le Seigneur est notre exemple. Il a mis sa confiance en Dieu. Maintenant, c'est à nous de faire cette veille. Je me confierai en lui. Le Seigneur est notre modèle. Ensuite, il est aussi, par rapport au témoignage de Dieu, voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. C'est une citation de Ésaïe 8. On n'a pas le temps de le lire maintenant. Mais dans Ésaïe 8, nous voyons le résidu fidèle passant à travers la grande tribulation, et même là, il y aura un témoignage pour Dieu. Mais ce sera par leur identification avec le Messie. Et Ésaïe, là, est l'exemple du Messie. Ésaïe est là un type, un exemple, une illustration du Messie. Ses deux enfants, Shea Yashub et l'autre nom, le nom difficile, Shea Mahal Shazbaz, quelque chose de même. Ces deux enfants était donc un témoignage. Maintenant, l'application pour nous pratique. Aujourd'hui, nous sommes un témoignage. Dieu nous a ramenés chez Aliashou. Dieu nous place sur la terre comme un témoignage. Et là, le Seigneur est identifié avec nous. Donc, il y a aussi beaucoup de leçons pratiques dans ce chapitre. Et j'aimerais quand même mentionner cela aussi. Chaque page de la Bible nous donne toujours des leçons pratiques. L'autre point encore que j'aimerais souligner, verset 16. Il ne prend pas les anges, mais il prend la semence d'Abraham. Est-ce que quelqu'un ici était déjà en train de se noyer une fois? Je ne sais pas. Peut-être. Je connais un frère. Il a crié à Dieu lorsqu'il était en train de se noyer, puis Dieu l'a sauvé physiquement, mais plus tard, et aussi spirituellement, c'est beau de savoir ça. Maintenant, mon point, il nous prend, il nous tend la main, il nous donne la main, il prend la semence d'Abraham. C'est ça, la compassion de Dieu. Il a eu compassion de nous. Il nous a étendu sa main. Et par la grâce de Dieu, nous avons pris cette main. C'est notre réponse. Mais c'est beau de voir comment Dieu s'identifie avec ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Il nous étend sa main. Il veut nous prendre sa main. C'est une pensée à suivre, comment nous pouvons marcher avec Dieu. Donc, on va revenir à ce point du sacrificateur. Le Seigneur, je mentionne maintenant, le Seigneur est plus grand qu'Aaron. On a mentionné l'apôtre, c'est Moïse. On verra plus tard, chapitre 3. Le Seigneur est plus grand que l'apôtre, que Moïse, ce grand Moïse. Il est aussi plus grand qu'Aaron, il est souverain sacrificateur. Il y avait un point, ça m'échappe, j'espère que ça va revenir. Mais juste ce point maintenant, à la fin du verset 17. Dans les choses qui concernent Dieu. Dans les choses qui concernent Dieu. Cet épître nous parle du travail du Seigneur Jésus, de son œuvre, de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il est par rapport aux intérêts de Dieu. Dans les choses qui concernent Dieu. Et j'aimerais poser une question à nous. Est-ce que les intérêts de Dieu nous sont à cœur? Est-ce que nous avons à cœur les intérêts de Dieu? Ok? Juste cette question-là. Est-ce que nous avons à cœur les intérêts de Dieu? C'est juste une application que je fais ici. Mais le Seigneur Jésus avait toujours à cœur d'abord les intérêts de Dieu. Il a pensé à nous aussi. Mais lorsqu'il a pensé à nous, même là, il avait d'abord à cœur les intérêts de Dieu. Euh, L'autre point que j'avais, ça ne revient pas à ma mémoire, mais si vous avez des questions, peut-être ça va revenir. Jérémie, on a eu beaucoup de points, c'est beaucoup de matière, hein, mais c'est comme une introduction, plus ou moins, à toutes les pistes, parce que beaucoup de détails qui sont juste indiqués ici vont être développés plus tard. Donc si vous n'avez pas tout compris maintenant, il ne faut pas s'inquiéter. On va revenir à plusieurs points, si le Seigneur le permet, plus tard. Par exemple, cette question du sacrificateur. Mais je ne voulais pas élaborer maintenant, je reviens à ça la prochaine fois du jour. C'est quoi un sacrificateur, etc. Donc si vous avez encore des questions, des remarques, des choses à ajouter. Ce chapitre serait bon, même ces 8 versets, 9 versets qu'on a lu, ce serait bon pour une conférence, et même une journée ne serait pas suffisant. Donc, une heure qu'on a eu maintenant, ce n'est pas suffisant pour couvrir tous ces versets. Mais j'ai juste donné quelques points comme référence, comme introduction.